France Info. Ils vont décrocher la Lune. Ces scientifiques qui relèvent les défis du 21e siècle.
C'est Donald Trump lui-même qui l'a annoncé lors du lancement de sa campagne pour la prochaine présidentielle aux États-Unis. S'il est réélu, il vaincra le cancer d'ici la fin de son nouveau mandat. Voilà une annonce choc. Alors, est-ce uniquement des mots? La recherche a-t-elle fait des bonds si impressionnants qu'elle puisse espérer mettre sous contrôle cette maladie encore mortelle dans de nombreux cas? Quelles sont les pistes les plus prometteuses en matière de traitement? La prévention et le dépistage précoce sont-ils des remèdes? Et finalement, vaincre le cancer, est-ce encore un défi? Ou déjà un engagement pour le 21e siècle. Hugues Dauté, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin à l'hôpital Saint-Louis à Paris, biologiste du cancer à l'INSERM, au CNRS et professeur au Collège de France.
Merci de m'inviter.
Je vous en prie. Le cancer, ce ne sera bientôt plus qu'une maladie comme une autre, comme une grippe ou une angine globalement soignable?
Alors, le cancer, ça n'existe pas. Il y a les cancers. Et les cancers. Et actuellement, on a une diversité du spectre de ces maladies, dont certaines demeurent malheureusement extrêmement graves, et d'autres se guérissent maintenant avec des taux de succès qui, dans certains cas, avoisinent 95% de manière définitive, donc des maladies qui sont derrière nous.
Un cancer, c'est toujours le même mode de développement, le même fonctionnement, si on peut dire?
Non, je crois que ce qui a émergé de la recherche dans ces 30 dernières années, c'est l'extraordinaire diversité de ces maladies. À la fin, bien sûr, c'est une cellule qui pousse, c'est une cellule qui est devenue mortelle, c'est une cellule qui envahit les tissus voisins. Mais la diversité des mécanismes, la diversité des causes est absolument remarquable, au point que dans certaines spécialités dans lesquelles on a particulièrement fouillé cette question, comme les leucémies par exemple, on considère que les leucémies sont une juxtaposition de maladies rares, très rare, voire dans certains cas orphelines. Donc une extraordinaire juxtaposition de maladies dont certaines, encore une fois, qu'on comprend extrêmement bien et d'autres qu'on ne comprend pas du tout.
Est-ce que globalement on sait ce qui déclenche un cancer? Est-ce que c'est l'accumulation de facteurs de risque? Est-ce que c'est l'environnement, une prédisposition génétique?
La première chose qui déclenche le cancer, c'est l'âge. C'est l'âge parce que, comme vous l'avez très bien compris, le cancer va être lié à l'accumulation de mutations génétiques ou épigénétiques et qu'évidemment ces mutations ont plus de chances d'apparaître plus le temps malheureusement se rallonge. Et donc le cancer, c'est une forme finalement d'usure cellulaire. Usure cellulaire parce que le génome, ce qu'on appelle l'ADN de la cellule, s'est progressivement abîmé. Et au fond, on peut imaginer deux voies face à cette usure. La première, c'est que la cellule disparaît. C'est ce qui se passe probablement pour les maladies neurodégénératives. Et puis, le vieillissement normal. Et puis, l'autre, c'est que la cellule devient folle et se met à pousser. Elle a changé complètement son programme. Et ça donne naissance aux différents cancers.
Mais vous dites, c'est l'âge, il y a des cancers chez l'enfant?
Il y a des cancers chez l'enfant, bien sûr. Toute règle a son exception. Et les cancers de l'enfant représentent des entités assez différentes.
Spécifiques.
Et dans certains cas, d'ailleurs, on a pu rapporter ce développement du cancer chez l'enfant à des mutations qui surviennent in utero. Donc, vous voyez, la toute première étape est dans le sein de sa mère et va ensuite donner naissance à une maladie qui va apparaître 2, 5, 10 ans après.
Certains cancers se soignent très bien aujourd'hui, je pense au cancer de la thyroïde par exemple, celui de la prostate aussi. D'autres résistent fortement au traitement, comme celui du poumon ou celui du pancréas. Est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce que c'est un mécanisme qui diffère? C'est la possibilité d'aller l'attaquer sur zone, j'allais dire, qui fait que c'est compliqué à traiter?
Alors, la réponse est qu'on ne sait pas très bien. Parce que beaucoup de traitements anticancéreux, jusqu'à aujourd'hui, ont été mis au point de manière relativement empirique.
Et ça veut dire on testait des molécules et puis
des molécules, on avait une idée,
on
avait une
idée, voilà,
on avait une idée, on essaye, on voit que ça marche. Mais dans un certain nombre de cas, on s'est aperçu que ça marchait, et parfois très bien, mais pas du tout pour les raisons qu'on avait pensé au départ. Et donc dans beaucoup de cas, les scientifiques d'ailleurs n'ont pas tellement donné suite. C'est-à-dire qu'on avait la recette, on avait le bon cocktail, ça guérissait, on était très content et on avait raison, et on est passé à autre chose. Donc il y a un certain nombre de maladies que l'on guérit bien sans savoir vraiment ce que l'on fait. Ce qui évidemment pose des problèmes pour l'optimisation du traitement ou le passage d'un traitement à un autre, ou d'une maladie à une autre. Et cet aspect de tâtonnement reste quand même essentiel et extrêmement prévalent dans les stratégies anticancéreuses.
Dans tous les cas, ça nécessite toujours des traitements qui sont lourds, avec des effets secondaires importants ?
Là encore, ça dépend. L'immunothérapie, dont on parlera un petit peu tout à l'heure, présente des taux de succès absolument remarquables dans des tumeurs qui autrefois étaient rapidement mortelles dans tous les cas. Donc c'est un progrès extraordinaire, mais au prix de complications, en particulier de complications auto-immunes, parce qu'on déchaîne le système immunitaire contre la tumeur, mais il y a des balles perdues. Et dans ces balles perdues, il y a effectivement un certain nombre de fonctions, comme des fonctions endocriniennes qui vont être touchées, comme la mucose colique, qui va être très souvent également la cible d'une inflammation. Donc il y a souvent des effets secondaires, des traitements qui peuvent être gênants, lourds, mortels parfois, et les patients bien sûr le savent malheureusement très bien. Il y a certains exemples, et en particulier dans la maladie à laquelle je me suis consacré depuis 30 ans, dans lesquels au fond maintenant on a des traitements simples dans certains pays par voie orale et avec des toxicités qui sont minimes. Donc il y a quelques maladies qui autrefois tuaient en quelques semaines et qui maintenant guérissent elles aussi en quelques semaines, essentiellement avec des comprimés. Donc on a l'espoir d'arriver, probablement par un mélange de tâtonnement et puis de raisonnement aussi, à faire des traitements qui soient de mieux en mieux supportés par les malades. Et puis, puisqu'on parle de clinique, il ne faut pas oublier au fond qu'on a déjà gagné la moitié de la guerre, c'est-à-dire qu'on a réussi dans beaucoup de cas à transformer le cancer d'une maladie aiguë, d'une maladie qui tue vite, en une maladie chronique, c'est-à-dire des patients vont vivre 5, 10 ans avec leur cancer, ce qui est déjà un succès formidable parce que ça veut dire qu'ils ont 10 ans de vie en plus. Le but ultime, c'est la guérison, on y arrive dans beaucoup de cas, mais il y a encore du chemin à faire et au fond, pour prendre un exemple historique, on peut dire qu'on est un petit peu dans la situation des maladies infectieuses dans les années 40. Dans les années 40, on a identifié la plupart des bactéries pathogènes, on comprend relativement bien ce que sont les infections, on commence à avoir des antibiotiques, on ne sait pas forcément très bien s'en servir, on ne sait pas les combiner, mais on sent qu'on va y arriver. Je crois qu'on est dans la même situation aujourd'hui avec le cancer, on a relativement bien démembré les différents types de cancers, on commence à comprendre grâce à la génomique fonctionnelle ce qui se passe dans la cellule, on commence à avoir des outils, on a la chimiothérapie, la radiothérapie qui existe depuis longtemps, mais on a maintenant aussi des traitements ciblés, on a l'immunothérapie, et tout le défi aujourd'hui, c'est d'arriver finalement à mettre au point un traitement à la carte, mélangeant probablement ces différentes approches, avec bien sûr la chirurgie qu'il ne faut pas oublier, et qui arrive dans des conditions de tolérance les meilleures pour le patient, de toxicité les moindres, à guérir un nombre sans cesse croissant de patients, et je pense vraiment qu'on est sur la bonne voie.
Donc aujourd'hui, la recherche Hugues de T travaille dans plusieurs directions. Vous l'avez dit, la voie immunitaire, c'est, je résume, celle qui cherche à améliorer la réponse de l'organisme face aux cellules cancéreuses, à l'agression que constitue ce cancer. Et puis, il y a celle que vous menez depuis des dizaines d'années, qui s'intéresse aux anomalies génétiques liées au cancer et qui tente donc de réparer ça.
Exactement, oui. On a vécu plusieurs révolutions. Dans la première révolution, ça a probablement été, dans les années 50, l'épidémiologie. Donc l'épidémiologie, c'est regarder, compter, comparer. C'est comme ça qu'on s'est aperçu que les fumeurs, et seulement les fumeurs, avaient des cancers du poumon. Ça a été une découverte extrêmement importante qui a été à l'origine des campagnes anti-tabac.
Une petite parenthèse, on peut le dire aujourd'hui, si on ne fume pas, on n'a pas de cancer du poumon, ou quasiment jamais?
Ben non, on ne peut plus le dire malheureusement.
Ah mince.
Mais à l'époque, on pouvait le dire.
Bon, en tout cas, c'est mieux de ne pas fumer.
C'est mieux de ne pas fumer, ça ne fait aucun doute. Et donc ça a conduit aux campagnes anti-tabac qui ont été des grands succès. Donc, première phase, on commence à comprendre qu'il y a des risques. Et ces risques, évidemment, c'était ce qu'on a trouvé à l'époque, c'était surtout les risques chimiques, hein, comme la fumée de tabac. Et puis on identifie aussi les risques viraux. Et il y a un certain nombre d'infections virales, surtout dans les pays en voie de développement, mais aussi un peu chez nous, qui vont être des facteurs de risque absolument majeurs pour le développement des cancers.
Par exemple, chez nous, le papillomavirus.
Par exemple, le papillomavirus, absolument. Et puis les virus des hépatites. Ça a été une première phase. On commence à avoir des idées. Après, il y a eu des modèles qui ont été faits chez des animaux, et ces modèles étaient surtout des modèles viraux. Et donc, on a cru, dans les années 60, 70, que tous les cancers chez l'homme étaient liés à des virus. Et il y a eu des recherches effrénés dans le monde entier pour essayer de trouver le virus du cancer avec un V majuscule et un C majuscule. On n'a pas trouvé. On en a trouvé certains qui sont responsables de cancers bien spécifiques. Hein, effectivement, col de l'utérus pour le papillomavirus, le cancer du foie pour l'hépatite. Mais ça ne rend absolument pas compte de la globalité des cancers, en particulier dans les pays occidentaux. Et donc, il y a autre chose. Ce qui est arrivé après, ça a été à partir des années, milieu des années 80, les anomalies génétiques. Et donc, dans ces anomalies génétiques acquises, hein, qu'on appelle somatiques, c'est au fond, un peu pour prendre une image informatique, des erreurs, des bugs de programme. À force de répliquer le programme de notre ADN, il y a des moments où dans la réplication, il y a des bugs et on va avoir à ce moment-là un faux signal. La plupart du temps, ces mutations s'accumulent avec l'âge d'une manière extrêmement bien connue. Hein. Mais certaines de ces mutations vont donner un avantage sélectif à la cellule, soit en lui permettant de pousser plus vite, soit en l'empêchant de mourir. Et donc on a constitué dans ces 10 dernières années des cartographies génétiques extrêmement précises qui ont permis de faire des groupes homogènes de patients. Et ensuite, connaissant ces groupes homogènes, ayant fait de la génétique fonctionnelle ou de la génomique fonctionnelle, donc connaissant l'effet de ces mutations sur la cellule, on a cherché à contrecarrer l'effet de ces mutations en faisant des médicaments qui vont interférer avec la fonction de la protéine qui a été modifiée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les thérapeutiques ciblées. Ces thérapeutiques ciblées ont été massivement développées dans les 10 dernières années et beaucoup d'entre elles ont des effets cliniques. Pour l'instant, je crois que la vérité est de dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui guérissent encore. Et justement, des efforts importants sont en cours à travers des essais cliniques, et en particulier des essais cliniques de combinaison, pour voir comment est-ce qu'on peut mélanger, au fond, ces thérapeutiques ciblées, les unes avec les autres, avec la chimiothérapie, avec l'immunothérapie, de manière à obtenir, évidemment, le gold standard, qui est ce qui nous intéresse tous, c'est-à-dire la guérison définitive, le patient à qui on dit « au revoir monsieur, au revoir madame, nous n'avons plus besoin de nous revoir ».
Ce travail autour de la génétique, ça permet aussi de développer des thérapeutiques beaucoup plus ciblées, c'est-à-dire presque individualisées.
Alors, il y a ciblé sur une cible. Par exemple, si vous avez un récepteur membranaire, une molécule qui va recevoir une information à l'extérieur de la cellule et qui va transformer cette information en un signal de prolifération. Là, on peut avoir des traitements ciblés, c'est-à-dire des petites molécules, des médicaments, qui vont bloquer simplement ce relais. Donc là, on aura le signal à l'extérieur de la cellule, mais il ne sera plus transduit. Donc ça, on sait très bien faire. Et ce que l'on a pu voir, c'est que ces médicaments ne vont être actifs que sur des patients qui ont la mutation du gène codant pour cette protéine. Donc il y a un appariement presque parfait entre la réponse au traitement et la présence de la mutation touchant à cette voie de signalisation. Après, chaque patient peut avoir des combinaisons de mutations différentes. Et c'est là donc où on est actuellement en plein tâtonnement clinique pour savoir au fond...
On revient au tâtonnement.
Est-ce qu'il faut décapiter la voie principale? Est-ce qu'il faut décapiter la voie principale et deux ou trois autres? Est-ce qu'il faut mélanger ça avec de la chimiothérapie? Est-ce qu'il faut mélanger ça avec de l'immunothérapie? Et je pense que là encore, la solution va être largement au cas par cas dans chacune de ces entités finalement qu'on a défini grâce à la génétique.
Mais presque à chaque fois avec une étude et un traitement adapté à chaque patient.
Tout à fait.
C'est-à-dire on est vraiment sur quelque chose de très précis.
Et quelque chose de très précis, ce qui implique des efforts importants, au fond, de biologie et de génétique pour caractériser chaque tumeur chez chaque patient.
C'est ça, il y a une cartographie individuelle à faire.
Exactement,
avant.
Exactement. Et ça maintenant, dans la plupart des pays du monde, pour de plus en plus de maladies, on le fait et on le fait bien.
Depuis des années, je voulais vous en parler, un cancérologue qui s'appelle le professeur Schwartz milite lui pour une approche encore différente des traitements. En résumé, il explique que le cancer, c'est un dysfonctionnement des cellules qui ne brûlent plus le sucre qu'elles ingurgitent. Et que donc, si on arrive à relancer la chaufferie interne des cellules pour brûler ce sucre, et puis si en parallèle, on diminue l'apport de sucre, on a une solution presque immédiate.
C'est pas des choses que je connais très bien et sur lesquelles j'ai travaillé. Il y a de toute évidence des modifications du métabolisme qui accompagnent le processus qu'on appelle de transformation, c'est-à-dire la transformation entre une cellule normale et une cellule cancéreuse. Et pour des raisons finalement assez simples, c'est qu'une cellule normale pousse peu, une cellule cancéreuse pousse beaucoup. Et donc elle va avoir besoin de manger différemment, de brûler différemment. L'énergie. Elle a besoin d'énergie beaucoup. D'abord, donc elle va pomper du sucre. Et puis elle a besoin aussi, ce sucre, de pas le brûler complètement. Parce que si on le brûle complètement, elle n'aura pas ensuite les briques élémentaires nécessaires pour construire une nouvelle cellule. Il ne faut pas oublier qu'une cellule qui se divise, c'est une cellule qui a synthétisé deux fois son contenu. Et donc cette phase de création de membranes, de création de protéines, de création d'acides nucléiques, nécessite en fait que l'énergie apportée ne soit pas entièrement utilisée pour être brûlée. Et donc il y a des réaiguillages très importants qui accompagnent la transformation cancéreuse. Alors après, comment est-ce qu'on peut contrecarrer ou aiguiller différemment les nutriments dans la cellule cancéreuse pour un bénéfice clinique? Je crois que c'est encore des domaines qui sont en pleine étude.
En pleine recherche. On en a déjà dit quelques mots, je disais en introduction, la prévention et le dépistage sont aussi des voies d'amélioration.
Sont des voies essentielles, absolument essentielles.
Pour lutter contre le cancer, on en a parlé, bon, le tabac, évidemment, l'alcool, et puis dans le sens inverse, du sport, l'activité en tout cas physique.
L'activité certainement, le surpoids est un facteur de risque, pas quantitativement très important, mais pour un très grand nombre de tumeurs. Donc probablement à la fin, en termes de santé publique, c'est important. Effectivement, le surpoids, l'alimentation, c'est certain. Le sport, moi qui ne le pratique pas, je ne vais pas le recommander.
Ça peut être une activité physique,
tout à fait. Non.
Et l'environnement, les questions environnementales, on en parle beaucoup.
On en parle beaucoup.
En termes de cancer aussi.
On en parle beaucoup, il y a sûrement des choses. Je ne suis pas certain qu'on ait fait suffisamment d'études et je pense qu'il y a une véritable urgence à avoir des études plus fines. Sachant que ce sont des études difficiles. Le tabac, qui est un cancérigène violent, il a fallu pratiquement 40 ans pour comprendre. Donc,
quand on dit violent, c'est qu'on le voit rapidement agir.
Exactement. Violent dans le sens où le surrisque est pratiquement 10 pour le cancer du poumon. Donc, avec des cancérigènes moins violents, il va peut-être falloir 20 ans, 30 ans d'exposition pour arriver à comprendre. Et puis on ne sait pas exactement ce qu'il faut mesurer. On ne sait pas exactement quels sont les cancérigènes possibles dans la pollution. Donc je crois qu'il y a...
C'est pour ça qu'on attend de mal, et par exemple dans des procès, à faire le lien entre un produit chimique et le développement de la maladie.
Sauf quand le facteur de risque est énorme. Pour le tabac, il est énorme. Pour l'amiante, il est énorme. Ouais. Donc il n'y a aucun doute. Mais pour des choses plus fines, ça pose de vrais problèmes scientifiques.
Le dépistage de son côté a permis d'améliorer évidemment la prise en charge de certains cancers. Plus on prend tôt, plus on a de chances de guérison.
Sans aucun doute.
Avec parfois le risque, c'est d'aller trop loin dans le dépistage et peut-être de trouver presque des prédispositions cancéreuses qui, au final, ne seraient pas développées. Il y a eu des questions autour de ça, des interrogations, plus que des questions autour du cancer du sein, de la prostate.
Vous avez raison, mais c'est mieux vaut quand même toujours surveiller plus. Et au fond, vous parlez de prédispositions, c'est vrai qu'elles existent. Leur prise en charge, je crois, s'est beaucoup améliorée dans ces 10 dernières années. Et au fond, ces patients qui ont des prédispositions, par exemple génétiques, sont extrêmement bien suivis, très régulièrement. Et finalement, leur mortalité a tendance à redevenir dans la normale pour cette tumeur-là, malgré leur prédisposition.
Donald Trump, il a raison, 2025, la fin de son mandat, on aura vaincu le cancer.
Il y a beaucoup de gens qui ont dit ça. Hein. Nixon avait dit aussi qu'en 10 ans,
il aurait fallu que son mandat soit plus long.
Bon, on est en pleine phase d'amélioration et je pense que les 10 ans qui viennent nous donneront encore de très beaux succès. Après, promettre la fin du cancer dans 4 ans, ça me paraît pas extrêmement raisonnable. Il faut se donner le temps et la recherche, il faut la financer. Et ça, c'est vraiment très important et ça devient un peu problématique. Heureusement, dans la recherche pour le cancer, qu'il y a le soutien d'associations caritatives, hein, comme la Ligue ou comme l'ARC. L'aide de l'Europe aussi est absolument centrale. Et puis, à côté de l'argent, il y a également un problème, je crois, qu'il faut mentionner, qui est une rigidification administrative, réglementaire, qui est en train de décapiter la recherche, et en particulier la recherche en biologie. tout est devenu extraordinairement complexe et des jeunes étudiants aujourd'hui ou les jeunes chefs d'équipe se battent autant contre des difficultés administratives que contre des difficultés scientifiques.
On va quitter votre domaine pour terminer un instant, la médecine. Est-ce qu'il y a un autre domaine de recherche dans lequel vous dites c'est ça le défi du 21e siècle?
Je crois que l'autre domaine qui est de toute évidence un domaine d'avenir, malheureusement, c'est la neurodégénérescence, qui, comme je vous l'ai dit, a des parentés, finalement, avec le cancer. Et c'est un sujet encore beaucoup plus difficile. Donc, je pense que ce sera ça, le prochain challenge.
Je vous conseille Yves Agide, qui était à votre place également,
pour
parler du cerveau et de ces fameuses cellules gliales. Je vous laisse découvrir tout ça si vous ne l'avez pas encore écouté. Merci beaucoup, Hugues de Thé, médecin à l'hôpital Saint-Louis à Paris, biologiste du cancer à l'INSERM, au CNRS et professeur au Collège de France. Autre décrocheur de lune, Yves Agide, à la découverte donc de la face cachée du cerveau.